Ce soir, je vous propose d'ouvrir une bouteille de Derrière les fagots. Alors, façon de parler, on va faire un petit voyage dans le passé et je vous invite à revivre la série que j'ai consacrée à toute l'aventure du légendaire festival de Woodstock en 1969. C'est parti.
Let's welcome Mr. Ritchie Havens.
Écoutez-moi bien, on m'informe qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, qui est en train de distribuer des pilules d'acide de forme plate et de couleur bleue.
Dans l'épisode précédent,
une voûte céleste inversée scintille dans cet amphithéâtre miraculeusement enchanté. Un cri d'acclamation unanime accueille ce spectacle, la foule prend conscience de son pouvoir magique.
Je n'étais pas sur l'affiche, mais ils m'ont dit que je pouvais le faire quand même. Et je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais.
Il est minuit passé et Joan Baez, qui doit conclure cette soirée chaotique, est introuvable.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Very good trip.
How are you out there? Are you okay?
Woodstock 1969.
We must be in heaven, man.
Mishka Assayas.
Alors aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle pour vous. On vient de retrouver Joan Baez. Je répète, on a retrouvé Joan Baez. Et oui, il est minuit passé et c'est la nuit du vendredi 15 au 16 août 1969. La nuit est tombée sur le champ de Max Jasger, un amphithéâtre naturel habituellement piétiné par des bêtes à cornes où continuent à arriver de tous côtés des groupes de chevelus attirés par la promesse de 3 jours de paix et de musique, une sorte week-end au paradis. Enfin, leur paradis. Et oui, Joan Baez a été rattrapée in extremis par son manager alors que, fidèle à son esprit missionnaire, elle chantait au milieu de la foule sur une petite scène perdue au milieu du public, une scène annexe destinée aux amateurs. Désormais, elle investit la grande scène et elle commence son récital par un gospel célèbre, un tube de cette année 1969, Oh Happy Day. Alors que tombe une pluie fine, on n'a d'ailleurs encore rien vu, Joan Baez commence par donner des nouvelles de son mari qu'elle présente familièrement par son prénom, David. Alors, une grande partie de la jeunesse présente, hostile à l'engagement militaire au Vietnam, connaît bien David Harris, cet avocat, objecteur de conscience, que la police est venue arrêter chez eux il y a une quinzaine de jours. Il va bien, confie Joan Baez. Oui, nous allons bien. On vient de le transférer de la prison du comté à la prison fédérale. Et la prison fédérale, c'est un camp de vacances à côté de la prison du comté. Là, vous savez quoi? Ils lui ont mis des fers aux poignets et aux pieds et ils lui ont aussi rasé la tête. David Harris, dont Joan Baez est enceinte de 6 mois, sera condamné à 20 mois de prison pour avoir refusé la conscription et avoir encouragé d'ailleurs les autres à y renoncer également. Elle va chanter pour lui sa chanson préférée, Joe Hill, un chant traditionnel dédié à un légendaire ouvrier gréviste condamné à mort en 1915 pour un crime qu'il nia avoir commis.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you. On to organize. show you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
En cet été 1969, pour Joan Baez, les temps ont changé. Elle a mis sa voix au service du combat pour les droits civiques des Noirs américains. Elle a chanté aux côtés de Martin Luther King. Elle continue à lutter contre la guerre au Vietnam. Un immense respect entoure évidemment ses apparitions et son aura est immense. Cependant, sur le plan poétique et musical, elle n'a pas su, comme Bob Dylan, se renouveler. Le psychédélisme, ses drogues, ses envolées mystiques l'ont frôlé, mais pas vraiment touché. Avant tout connue pour ses sublimes interprétations des chansons des autres, chansons traditionnelles ou compositions des meilleurs auteurs, de Bob Dylan à Tim Hardin, en passant d'ailleurs par Jacques Brel et Léo Ferré, Joan Baez n'a pas encore cherché à imposer un univers propre. Et comme Dylan, elle a bien tenté de rafraîchir son style au contact de la musique country, une tendance très affirmée durant cette période, mais on peut pas dire qu'elle ait encore une voix personnelle. Alors Joan Baez veut désormais aller plus loin, elle commence à présenter sur scène, comme sur disque d'ailleurs, ses propres compositions, et le pas est pour elle difficile à franchir. Elle est consciente qu'il y a une nouvelle génération qui se profile, Joni Mitchell, la moins connue Janis Ian, bientôt Carole King et Carly Simon. Ces musiciennes, qu'elles soient ses contemporaines ou bien ses cadettes, composent et interprètent leurs propres chansons. Elles savent mettre en scène leurs états d'âme et leurs tourments intimes, ce que, par pudeur et modestie, Joan Baez s'est jusqu'ici interdite de faire. Et voilà, c'est avec ce gospel, qui fut l'hymne du mouvement pour les droits civiques, que se termine le récital de Joan Baez sur la scène du festival de Woodstock. C'est ainsi que se termine ce premier jour de paix et d'amour.
Very Good Trip, Woodstock 1969, sur France Inter et la RTBF. Mishka Assayas.
La nuit tombe et une pluie diluvienne continue à tomber, transformant les lieux en véritables champs de boue. C'est le chaos et en même temps l'émerveillement. Le lendemain, le samedi 16 août 1969, le soleil se lèvera sur ceux qui, dans une merveilleuse illusion collective, auront l'impression de constituer une nouvelle humanité. Mais enfin, en attendant, c'est pas le cas. Ceux qui parviennent à trouver un sandwich ou à acheter un pamplemousse à l'arrière d'un camion bénissent leur chance. Hendrik Herzberg, aujourd'hui qui est éditorialiste au New Yorker, arrivé là avec sa jeune bande de copains, a raconté dans un témoignage publié dans The New Republic, c'était en 1989, avoir carrément, lui, baissé les bras après cette première nuit héroïque. Je cite intégralement son témoignage parce que c'est pas mal. Nos sacs de couchage et nos habits étaient trempés et pleins de boue. On s'était installé en bordure d'une espèce de sentier, un fleuve de gadoue sur lequel tout le monde glissait. On était couchés là, et on essayait de dormir, et il y avait ce flux de gens qui n'arrêtaient pas de passer. Toute la nuit, on a entendu le bruit de leurs pas qui piétinaient, s'enlisaient et pataugeaient à quelques centimètres de nos têtes. Il y en avait pas mal qui étaient clairement désorientés par des substances chimiques. On avait l'impression qu'ils étaient tous en panique. Alors à tour de rôle, on a essayé de regagner notre voiture, enfin un car Volkswagen, pour essayer d'échapper à la pluie. Mais à l'intérieur, une fois qu'on avait fermé les vitres, c'était atrocement humide. Alors le lendemain, samedi, en début d'après-midi, on a eu l'impression que ça se dégageait enfin. On avait encore des vêtements secs dans le car et on s'est tous forcés à la bonne humeur. C'est à ce moment-là que le déluge a commencé. Après, la clé s'est cassée dans la serrure du coffre, ce qui nous a empêchés d'accéder à ce qui nous restait de vivres et de vêtements secs. Enfin, cela dit, bon, la clé de contact marchait encore. Le moteur s'est mis à tout sauter et à se secouer en saccade. Ouf, on a pu démarrer, on s'est tous regardés et sans se donner le mot, on était tous d'accord pour repartir. Alors, le spectacle que croisent Herzberg et ses camarades est dantesque. Une étendue de tente à la toile détrempée au milieu d'un champ de boue. Des dizaines de milliers de personnes commencent à fuir cette zone sinistrée. Dépassés par ce car Volkswagen roulant prudemment ou pas, certains pèlerins, rebroussant eux aussi chemin mais à pied, profitent de l'aubaine et grimpent sur le car, sans hésiter, s'entassant sur le toit. Je poursuis le témoignage de Herzberg. C'est alors qu'on a entendu un grand bruit de craquement. Le car avançait mais ne pouvait plus supporter de charges supplémentaires. Alors il y a deux d'entre nous qui se sont mis à trotter sur le côté le long du car façon agent des services secrets, demandant gentiment aux gens de ne pas s'empiler dessus. Et c'est vrai, la légende ne ment pas. Tout le monde a été très aimable et très poli. On a passé le reste du week-end bien au sec, douillettement installé chez ma sœur, à regarder le reportage sur le festival à la télé. Notre grande angoisse était que Bob Dylan ait finalement décidé de venir et qu'on passe le restant de nos vies à regretter d'être parti. Savoir que finalement il n'est pas venu, alors là, ça a apporté notre bonheur à son comble. Alors pour ceux qui veulent savoir comment c'était vraiment Woodstock, et ben voilà, ils savent.
But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from my mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that
myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
On the Road Again, la chanson la plus connue du groupe californien Canned Heat. Il faut savoir que une autre chanson de ce groupe, Going Up the Country, est demeurée l'emblème de Woodstock. On l'a entendu lors d'une émission précédente. C'est la chanson qu'a choisi le réalisateur Michael Woodley pour accompagner les premières images du célèbre film consacré au festival de Woodstock, vu dans le monde entier en 1970. Alors l'idée d'un retour à la nature évoquée par la chanson cadrait parfaitement avec l'âme du festival. Une foule de jeunes fuyant la vie urbaine, le bruit, la tension et la pollution pour inventer l'espace de 3 jours, une autre vie communautaire en pleine nature. Et pour beaucoup, ce fut l'évangile de Woodstock. Mais n'anticipons pas, le groupe Canned Heat ne s'est produit ce samedi qu'en fin de journée, à 7h30 du soir, et il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. On peut quand même dire quelques mots de ce groupe. Alors, on connaît bien Canned Heat à San Francisco et dans sa région. Sur la côte est, très très peu encore. Un des deux chanteurs, Bob Hyde, c'est un énorme barbu à queue de cheval, en t-shirt blanc et pantalon informe, ressemble à un grizzly. On ne le surnomme pas The Bear pour rien. On dirait d'ailleurs plus un machiniste qu'une rockstar. Et l'autre, tout freluquet, Al Wilson, également guitariste et harmoniciste, chante, on l'a entendu, d'une étrange voix de tête très haute, comme son modèle Skip James, un musicien de blues du Delta, disparu dans les années 40 et mystérieusement réapparu une vingtaine d'années plus tard. Ces deux passionnés de blues que sont Bob Hyde et Al Wilson se sont rencontrés dans le magasin de disques où travaillait The Bear, et le groupe qu'ils ont formé, Canned Heat, hein, Chaleur en boîte, est un orchestre de bar sans prétention dont la palette s'étend du blues des campagnes au blues électrique de Chicago en passant par le boogie de John Lee Hooker. Mais revenons au samedi 16, au matin. La situation sur le site du festival est celle d'un sauvetage. Oui, on a trop prévu pour le rêve et bien trop peu pour la réalité. Comment nourrir cette foule colossale, désorganisée, chaotique? Il y a un trio d'associés new-yorkais appartenant à une compagnie qui s'appelle Food for Love, qui a été engagée pour installer et livrer des stands de hamburgers en quantité notoirement insuffisante. À 15 jours du festival, d'ailleurs, la situation s'est tellement envenimée entre eux et l'équipe des régisseurs qu'on en est carrément venu aux mains. Les hamburgers sont en effet vendus à 1 $ pièce, c'est-à-dire 4 fois le prix normal. Vous imaginez que c'est très très cher pour les jeunes qui sont là, et ça scandalise à juste titre les festivaliers. D'ailleurs, il y a un stand de hamburgers qui a brûlé pendant la nuit et la cause n'est pas nécessairement accidentelle. Mais un miracle, un de plus, va avoir lieu. Des habitants du comté de Sullivan, apprenant que cette foule de jeunes gens enlisés dans un champ de boue tout près de chez eux risque de manquer de nourriture, se sont organisés et mobilisés pour confectionner 10 000 sandwichs. Oui, 10 000 sandwichs qui vont être livrés par hélicoptère et bien sûr distribués gratuitement. Et puis, il y a aussi ceux qu'on appelle les « hog farmers », ceux qui sont de la Hog Farm, la ferme des cochons. C'est une communauté historique de hippies californiens qui ont été chargés de l'accueil et de la sécurité, et c'est eux qui vont prendre les choses en main. Samedi matin, au petit matin, en effet, le dénommé Wavy Gravy de la Hog Farm annonce depuis la scène que « Notre idée, c'est de vous apporter le petit déjeuner au lit. »
It's going to be good food, and we're going to get it to you. It's not just the hog farm either. It's everybody. We're all feeding each other.
Des choses bonnes à manger qu'on va vous distribuer. On va tous se nourrir les uns les autres. Et puis, in extremis, il y a un membre de la communauté, Lisa Lowe, qui a pu apporter de New York 130 000 assiettes en papier, fourchettes, couteaux et cuillères, sans oublier les tasses. Ce sera un régime évidemment pas très marrant, à base de riz complet et de muesli, qui sera d'ailleurs pas du goût de tout le monde. Mais enfin, vous avez compris, c'est un luxe d'avoir un hamburger. Alors il faut préciser une chose, les Hog Farmers n'ont pas pensé qu'à la nourriture. Ils ont aussi tracé des chemins dans la forêt, ils ont planté de grands panneaux de bois pour orienter les festivaliers, ils ont également pensé à des jeux pour enfants et pris le temps de monter pour eux, pour leur divertissement, des meules de foin. Un vaste courant d'entraide va parcourir la foule. Certains, comme l'activiste Abby Hoffman, sont allés très loin. Ils ont été les premiers à démonter les palissades afin que le festival soit gratuit et ils ont changé même les panneaux installés par les Hog Farmers. Merchants Way est ainsi devenu Ho Chi Minh Trail, hein, la piste Ho Chi Minh d'après le nom du leader nord-vietnamien Viet Cong. Ces activistes, comme Abby Hoffman, qui a fondé le mouvement libertaire des hippies, hein, des hippies libertaires, qui avait présenté un port à la présidence des États-Unis, qui avait également mené de violentes actions anti-guerre au Vietnam à Chicago, voient dans la nation de Woodstock, entre guillemets, la première réalisation d'une communauté anarchiste où la propriété, l'argent, les liens familiaux, plus rien n'existe à part l'entraide gratuite et désintéressée entre tous les humains. Hoffman et ses camarades vont d'ailleurs ainsi donner l'exemple en s'occupant eux-mêmes de nettoyer les installations sanitaires. Vous imaginez ça aujourd'hui difficilement. John Morris et d'autres membres de la régie se succèdent sur la scène pour faire des annonces. Elliot de Harvard, les autostoppeurs que t'as pris ont besoin des pilules qu'il y a dans ta voiture. Va directement au bureau d'information. Si vous avez de quoi manger, nourrissez vos voisins. Nous sommes la première ville libre de l'ère du Verseau. Toute cette boue, toute cette pluie peuvent nous aider à nous rapprocher. Ramassez les ordures, on a besoin de volontaires. Ne soyez pas inquiets, les pilules d'acide de couleur bleue ne sont pas du poison. Elles ne vont pas vous tuer, elles sont juste de mauvaise qualité. Si vous en prenez, étendez-vous tranquillement, respirez un bon coup et ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est de mauvais va se dissoudre dans l'éther. Vous voyez, vous entendez là-haut, ce sont des hélicoptères de l'armée. Ils ont des équipes médicales qui vont nous porter secours en cas de besoin. Ils sont avec nous. Il y a au moins 45 médecins, au moins peut-être plus. Ils vont pas réclamer d'argent parce que ça leur botte ce qu'on fait tous ensemble ici. Alors, après le passage du premier groupe de l'après-midi, Quill, un groupe de jazz soul psychédélique qui n'a pas laissé un souvenir impérissable, il y a un quasi-inconnu, seul sur scène avec sa guitare, qui, sur le coup de 1h30 de l'après-midi, est en train de créer l'événement et d'entrer dans l'histoire.
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? 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 Well, come on, all of you big strong men, Uncle Sam.
Hey, oui, give me an F, give me a U, give me a C, give me a K. What's that spell? Fuck! Répond la foule qui jubile. Tous ceux qui ont vu le film Woodstock se rappellent évidemment ce moment d'insolence collective qui fait se lever les festivaliers hilars, la plupart torse nu. Un inconnu, vêtu d'une veste de surplus militaire portée à même la peau, coiffé d'un bandana et armé de sa seule guitare sèche, fait entonner à la foule un hymne anti-guerre sardonique « I feel like I'm fixing to die » entre parenthèses « rag », c'est-à-dire « je crois que j'ai bien l'intention de crever » entre parenthèses « satire », dont les paroles disent 1, 2, 3, pourquoi est-ce qu'on se bat ? Me demande pas, je m'en fous. Prochain arrêt, Vietnam. 4, 5, 6, ouvrez-nous les portes du paradis. Pas le temps de réfléchir, youpi, on va tous crever. Une minute avant, on écoutait avec une sympathie distraite ce moustachu chanter sous un ciel gris, mais là, c'est un héros qui surgit. Alors à l'origine, le fameux cri introduisant la chanson était une simple parodie de ceux que lançaient les pom-pom girls avant les matchs de football entre lycéens, scandant les lettres de chaque équipe. Le batteur du groupe de Country Joe, Chicken Hirsch, avait pris l'habitude de faire hurler au public les lettres du mot fish, comme poisson, F-I-S-H, c'est-à-dire c'est le nom du groupe qui accompagnait Country Joe, qui s'appelait d'ailleurs tout simplement Country Joe and the Fish. Alors à New York, l'année précédente, donc en 68, Country Joe avait transformé ce F-I-S-H en F-U-C-K, un cri collectif contre la conscription pour aller faire la guerre au Vietnam. Ce qui avait entraîné l'interdiction du groupe sur les ondes et les chaînes de télévision, ainsi que dans les salles de concert, un bannissement qui avait accru en proportion inverse la popularité de Country Joe and the Fish sur les radios underground de New York et de sa région. La présence de Country Joe sur scène à cet instant précis est un hasard, un de plus, entraîné par la désorganisation totale du festival. Les musiciens prévus, le groupe Santana, sont encore bloqués sur les routes avoisinantes et il faut absolument que le festival se poursuive. On a repéré ce musicien qui se balade dans la zone réservée aux professionnels et Country Joe, en fait, n'est programmé que pour le lendemain dimanche et il est prévu qu'il soit accompagné de son groupe, donc The Fish. Alors, qu'à cela ne tienne, on lui a dégoté une guitare sèche Yamaha qui, en guise de sangle, ne dispose que d'une ficelle. Mais en lui disant, allez, vas-y, vas-y, fais-les patienter. Et Country Joe y est allé. Une, deux, trois, puis huit chansons. Hélas, il se passe pas grand-chose. Le chanteur endort les festivaliers. Son régisseur a alors une idée de génie. Il s'approche de Country Joe, en passe de terminer son récital dans l'indifférence générale. Il dit « Attends pas demain, allez, fais alors tout de suite la chanson qui passe à la radio, maintenant, vas-y !» Country Joe se dit « Allez, c'est ma dernière chance. » Il ferme les yeux, reprend son souffle et il se lance à la grâce de Dieu. « Give me a knife !» Et voilà, c'est gagné. La Marie humaine qui, face à lui, semblait figée, commence à se remuer comme un organisme géant. Tout le monde se lève et crie, c'est un moment électrique. Ladies and gentlemen, Country Joe. Marvin Gaye. En fait, rien ne prédestinait Country Joe à s'inscrire dans le mouvement hippie, d'autant qu'il n'avait strictement rien d'un pacifiste antimilitariste. Joe McDonald avait de fait servi plus de 3 ans dans la marine, dont 2 sur une base au Japon. Il avait même ressenti une certaine fierté à porter les couleurs de son pays. Ce qui l'avait en revanche indigné, c'était la mainmise des politiques sur les actions militaires des États-Unis. Ce qu'on sait moins de Country Joe McDonald, c'est qu'il fut à l'avant-garde du mouvement psychédélique. Dès le printemps 1966, en compagnie des musiciens formant son groupe The Fish, ainsi nommé à cause du célèbre proverbe du président Mao, selon lequel, je cite, « le révolutionnaire doit être comme un poisson dans l'eau », eh bien, Country Joe avait publié un 45 tours vendu exclusivement en librairie en guise de numéro spécial. Il s'agissait d'un disque tiré à 100 exemplaires seulement de 3 chansons de rock électrique explicitement influencées par la prise de LSD. Ainsi, historiquement, Country Joe and the Fish avait pris une légère avance sur Grateful Dead et Jefferson Airplane dans la création de l'acid rock ou rock psychédélique dans la ville de San Francisco. Country Joe a ensuite vécu quelques temps chez une jeune étudiante arrivée du Texas qui chantait au sein d'un groupe qui s'appelait Big Brother and Holding Company, lequel se produisait comme le sien au Fillmore et l'Avalon Ballroom, Janis Joplin, avec laquelle il expérimenta d'autres psychotropes.
Is the name that a bear been alone in the forest a long time. my servants tell me that my daughter's gone with Blackjack David, singing through the green, green trees. Find that daughter. Well, day and he rode all night, but he never did find his daughter. But he heard from a far come drift on the wind. Name that I've ever been alone in the forest for a long time, but now I've found a lady fair and I love her and hold her, singing through the green, green trees.
Very good trip, Woodstock 1969. Mishka Assayas.
Une curiosité d'époque, Blackjack Davy, interprété par le groupe écossais The Incredible String Band, qui s'est produit en fin d'après-midi ce samedi 16 août à Woodstock et qui fit un flop face à un public qu'un groupe de musiciens inconnus venait de faire entrer dans une bienheureuse transe. Si vous n'avez pas deviné de qui je parle, vous allez vite savoir de qui il s'agit. En tout cas, The Incredible String Band reste un des groupes les plus singuliers de la période, une association aussi étrange que poétique de folk, country, musique indienne, nord-africaine et parfois même chinoise. C'est un groupe qui recourait à des instruments très inusités comme la flûte de Pan, le oud égyptien, le djembri marocain et le sitar indien, le tout fortement stimulé par l'absorption régulière de hashish et de LSD. On a pu dire de l'album de The Incredible String Band qui s'appelait The 5000 Spirits or The Layers of the Onion, paru en 67, qu'il fut le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band du folk hippie. Mais revenons à ce début d'après-midi, le samedi 16 août 1969. Après l'héroïque prestation de Country Joe, la pluie est revenue. Les organisateurs s'arrachent les cheveux. Installer un système d'amplification sur scène est bien trop risqué, alors ils n'ont pas le choix. Il faut encore reculer l'arrivée du premier groupe électrique, le temps de balayer les flaques d'eau qui jonchent le sol. Il y a un musicien connu qui traîne dans les parages, John Sebastian. Comme il n'est pas à l'affiche, évidemment, il est arrivé les mains dans les poches. Alors les organisateurs lui tiennent à peu près le même discours qu'à Country Joe. Il faut improviser quelque chose pour faire patienter le public. Et John Sebastian n'hésite pas, il relève le défi. Alors ceux qui ont vu le film Woodstock se rappellent peut-être l'apparition de ce type, vêtu d'un étrange ensemble en jeans délavés multicolores, feu de plancher avec des sandales, un t-shirt aux taches kaléidoscopiques, c'est un effet qu'on obtenait en tordant le tissu qu'on venait de teindre dans tous les sens, très à la mode à l'époque. John Sebastian a un sourire radieux, il porte des lunettes rondes et son visage est orné d'énormes rouflaquettes, c'est l'accessoire pileux indispensable de nombreux jeunes contestataires en 1969. Son copain, Tim Hardin, lui a passé sa guitare. Alors John Sebastian arrive sur scène dans un drôle d'état. Ses premières paroles sont complètement euphoriques. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez l'air extraordinaire. Vous êtes comme une ville. Vous avez réalisé des choses dont on parlait il y a une dizaine d'années autour d'une cigarette. Et puis après, à sa première chanson, il se met à raconter tout ce qui lui passe par la tête. J'étais en Californie. J'ai passé là 4 jours sous une tente. Et j'ai rencontré cette femme qui m'a appris à faire des teintures. Et c'est tellement super de vous voir comme ça dans des tentes. Bon, il célèbre la naissance d'un bébé qui vient de naître avant de chanter une chanson intitulée Younger Generation. Il demande au public de l'aider à chanter les paroles qu'il a en partie oubliées parce que de son propre aveu ultérieur, il a fumé un pétard avant d'arriver. Ou alors, selon une autre version, il aurait carrément pris du LSD. Alors le New Yorkais, qui est John Sebastian, avait connu un grand succès quelques années avant avec son excellent groupe The Lovin' Spoonful, dont on se souvient surtout pour un tube resté un classique, Summer in the City. Excellent mélodiste et parolier, tourné vers le jazz ragtime, la country des ancêtres et le blues rural, quelque part entre les Kinks et Randy Newman, John Sebastian est un traditionnaliste imperméable, totalement rétif aux improvisations psychédéliques. Il se trouve alors dans un entre-deux, The Love and Spoonful, son groupe n'existe plus, et puis il est parti vivre dans une communauté en Californie. Avant de quitter la scène, John Sebastian suggère aux membres du public de s'aimer les uns les autres et de ramasser les ordures par terre et sur le chemin.
I had a dream last night. What a lovely dream it was. seemed we all were all right. Happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene. Feeling mean. I heard a song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it all night. Unforgettable because players were playing together, and all of the heavies were light as a feather. All I'll remember is a feeling tomorrow, but as I recall, the rest will just follow. I had a dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. What a lovely dream it was.
You're all beautiful. Goodbye.
Ladies and gentlemen, John Sebastian.
Quand John Sebastian quitte la scène ce samedi 16 août vers 2h30 de l'après-midi, la pluie, comme par miracle, a cessé. Le premier groupe électrique à se produire cet après-midi-là vers 16h est le groupe de jazz-rock anglais, le Keith Hartley Band. Le vent de l'histoire a tout fait de le balayer, d'autant que son manager intraitable a refusé qu'on filme les musiciens faute de contrat spécifique. Une funeste erreur de jugement dont il aura à se repentir, puisque tous les groupes apparaissant dans le film Woodstock auront une notoriété qui échappera définitivement à ce groupe. Rien ne prépare alors les spectateurs étendus sous un soleil radieux à l'ouragan qui va déferler sur eux. Et je ne vous parle pas de météorologie. Il s'agit d'un groupe pratiquement inconnu qui s'apprête à investir la scène, Santana. Il n'a pas encore sorti d'album et n'a donné que très peu de concerts sur la côte Est. Pour autant, il restera un des sommets le plus haut peut-être de ces trois jours de paix et de musique. Santana doit sa présence à l'insistance d'un seul homme, Bill Graham, sans lequel le festival de Woodstock aurait certainement eu lieu, mais pas avec une affiche aussi prestigieuse. Qui est Bill Graham ? Eh bien, c'est l'homme qui, à San Francisco, a fait du mouvement psychédélique, par essence spontané et anarchique, un phénomène national, lui offrant une structure, une organisation et un impact qui, sans lui, n'aurait jamais existé. À San Francisco, dès 1965, alors que le mouvement hippie en est à ses balbutiements, c'est Bill Graham qui a fait l'acquisition d'une ancienne patinoire située dans le quartier noir de la ville afin d'en faire une salle de concert comme on n'en a jamais vu. Ce sera le Fillmore Auditorium. Sonorisation, jeu de lumière, décoration, Bill Graham a investi le nécessaire pour que l'expérience de la musique soit totale. Et de fait, les concerts du Fillmore de San Francisco, où se produisent tous les musiciens qui comptent en ce temps-là, de Jefferson Airplane au Mothers of Invention de Frank Zappa, sans oublier le Jimi Hendrix Experience, en passant par l'Indien Ravi Shankar et puis les poètes beat comme Allen Ginsberg, ce sont des événements dont la réputation s'étend dans tout le pays et bientôt dans le monde entier. Et des événements qui rapportent. Bill Graham a été le premier à comprendre que le mouvement hippie, même s'il est empreint de valeurs, de générosité et de désintéressement, est en fait un marché très profitable où plein de jeunes clients sont prêts à payer le prix qu'il faut pour vivre des expériences cosmiques. La réputation du Fillmore D'ailleurs, va devenir tel que Bill Graham pourra, début 68, ouvrir une autre salle du même nom à l'autre bout des États-Unis, le Fillmore East, dans l'East Village de New York. Et alors, pour toutes ces raisons, Michael Lang, un des co-organisateurs du festival, et son équipe doivent absolument en passer par lui pour faire venir les groupes qu'ils convoitent. Alors, déjà, Bill Graham a été le sésame indispensable pour faire jouer à Woodstock les deux groupes les plus prestigieux du moment du courant psychédélique, Grateful Dead et Jefferson Airplane. Bill Graham est de fait le promoteur exclusif de leurs concerts et il sait aussi très bien faire monter les enchères. Il est extrêmement franc avec Lang et les autres. Il a autorisé ces jeunes amateurs sympathiques qui préparent le festival à se réclamer de son nom et de sa réputation pour inspirer la confiance des agents et des managers. Ils veulent Grateful Dead et Jefferson Airplane ? Très bien, oui, mais à ces conditions. Lesquelles ? Demande Michael Lang. Ben, faire jouer un groupe qui s'appelle Santana à la meilleure heure et payer aux musiciens 2 500 $. Michael Lang tombe à la renverse. Santa quoi ? Mais personne ne les connaît. C'est ça ou rien. Et c'est ainsi que débarque vers 5h de l'après-midi un groupe comme personne n'en a jamais vu sur la côte Est. Une formation multiraciale où les percussions, congas et timbales cubaines, sont au premier plan. On dirait un orchestre de rue électrifié et amplifié plus qu'un groupe de rock dont les musiciens se prendraient pour des stars. Les familles de Carlos Santana et des percussionnistes Mike Carabello et José Chepito Areas installés à San Francisco ont fui une vie misérable, respectivement au Mexique, au Nicaragua et à Porto Rico. Quant au bassiste David Brown, il vient du ghetto noir de la ville. Uni à deux banlieusards blancs de San Francisco, l'organiste Greg Rowley et le batteur exceptionnel Michael Shreve, ils ont créé une fusion unique, une fusion qui parle au cœur de ce déraciné qu'est Bill Graham, un juif russe orphelin qui fut enfant un martyr de la Seconde Guerre mondiale. Tout de suite, le public se lève comme réveillé en sursaut et entre peu à peu en transe. Des spectateurs se saisissent de tout ce qui se trouve à portée de main pour les accompagner en cadence. La musique de Santana est une sorte de blues jazz latino-africain joué avec une euphorie et même une frénésie irrésistible. Le guitariste Carlos Santana, à peine 22 ans, est dans un état second. Persuadé que son groupe ne monterait pas sur scène avant le milieu de la nuit, il plane encore complètement quand on lui donne le signal de commencer.
Moi, je ne voyais qu'une mer de gens avec de la chair, des cheveux, des dents. Et le son, c'était le son de plusieurs Coupes du Monde en même temps. C'était un son incroyable. Tous ces gens qui hurlaient en même temps. Moi, je me souviens, le manche de la guitare était comme un serpent électrique qui n'arrêtait pas de bouger. C'est pour ça que je faisais des grimaces. J'essayais de dresser le serpent pour pouvoir jouer. Donc le manche n'arrêtait pas de bouger. Et puis, je me suis dit, mon Dieu, plus jamais je referai ça. Dieu, si tu pouvais me garder en rythme et dans la tonalité, c'était ma première mantra d'ailleurs. Mon Dieu, je t'en prie, je promets que je ne recommencerai jamais. Je ne reprendrai jamais de LSD. Et puis le son de la musique, ça passait à l'intérieur de mon corps, ça passait par mes doigts, par l'ampli, par la sono, ça allait dans le public, et puis ça revenait vers moi. Ça foutait les jetons. Hein. Moi, je ne recommande pas d'être camé comme ça au LSD avant de monter sur scène. C'est le truc à pas faire. Mais grâce à Dieu, la performance qu'on a donnée au public, Soul Sacrifice, c'était électrique.
quelques minutes où apparaît Santana dans le film consacré à Woodstock donneront un immense écho mondial au premier album du groupe, publié quelques mois après le festival et qui lui offrira pas moins de 3 tubes en 1970. Soul Sacrifice, Evil Ways et Jingo. Quand le soir tombe, après la prestation du groupe Can't Heat, c'est un spectacle de désolation. Selon le témoignage de Joe Boyd, le jeune manager du groupe The Incredible String Band, futur découvreur de Syd Barrett et Pink Floyd à Londres, je le cite, « La beauté pastorale de cette foule de hippies étendue là paisiblement avait disparu du jour au lendemain. Là, on aurait dit une zone de guerre. » Et pourtant, c'est au cœur de cette dévastation que dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 1969 vont surgir une beauté et une magie qui s'inscriront durablement dans le cœur de ceux qui étaient là et de ceux qui rêveront d'avoir été là. On l'évoquera, promis, dans le prochain épisode. Merci beaucoup à Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé avec brio cette émission, comme à chaque fois, Mathilde Verfaillé pour son soutien inestimable et Tristan Gratalon à la technique qui était pas mal non plus. À la prochaine. fin de l'épisode de ce soir. On se retrouve demain pour suivre la suite du feuilleton.